nous allons pouvoir commencer, si vous êtes tous d'accord. Alors, c'est une première, hein. Passe en vidéo, vous vous rendez compte? Bon, mardi, donc 25 mars 2025, donc c'est notre huitième séance consacrée à la lecture de l'Esprit des lois de Montesquieu. Bon, alors, cette séance étant filmée et devant être reproduite sur YouTube, j'en profite pour indiquer qu'elle se déroule dans le cadre des activités de Philopop, l'association populaire de philosophie du Havre. Voilà. Alors, on peut faire le point d'abord, pour commencer. Lors des deux dernières séances, nous avons examiné le gouvernement républicain, le gouvernement despotique, et nous avons montré que le despotisme ne désigne pas seulement un type de gouvernement, mais qu'il est aussi la tendance corruptrice qui les affecte tous, qui peut les affecter tous. Cette tendance est bien sûr d'abord inhérente au gouvernement despotique lui-même. Elle est constitutive de sa logique interne, en vertu de laquelle aucun gouvernement despotique ne devrait pouvoir se maintenir à l'existence, si vous vous souvenez. Mais comme on l'a vu avec l'exemple du gouvernement chinois, un gouvernement despotique ne se maintient à l'existence que par les limites extérieures qu'il rencontre, comme par exemple celle d'un climat chaud, dans l'exemple de la Chine. Bon. Quant au gouvernement modéré, je vous rappelle qu'un gouvernement modéré, c'est un gouvernement régi par des lois. Nous disons aujourd'hui un état de droit. Quant au gouvernement modéré, le despotisme se traduit, pour eux, par une concentration et un renforcement du pouvoir, toujours plus grand, qui conduit à faire violence aux hommes. Et le despotisme se caractérise ici par ce que Montesquieu va appeler l'abus de pouvoir. Alors, vous connaissez tous la célèbre formule de Montesquieu qui se trouve dans le chapitre 4 du livre 11, je l'avais déjà cité, mais on va la reprendre. C'est dans le texte, d'ailleurs, qui se trouve, page 1, en haut à droite, chapitre 4 du livre 11. C'est un petit extrait. « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Alors, voilà un constat sans appel, qui invite à se défaire de toute illusion. On ne peut pas compter qu'un homme qui a du pouvoir puisse de lui-même s'empêcher d'abuser. Si tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, c'est qu'il est de la nature du pouvoir de ne pas contenir lui-même ses propres limites. Il va, comme le dit Montesquieu par la suite, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites, jusqu'à ce qu'il trouve à l'extérieur de lui quelque chose qui l'arrête. Donc, si on ne peut pas compter sur la vertu des hommes pour arrêter le pouvoir, eh bien, seules des institutions pourront empêcher donc l'abus de pouvoir. Et vous voyez que le problème sera d'examiner les conditions institutionnelles qui permettent d'éviter toute dérive despotique dans les gouvernements modérés et d'assurer ainsi la liberté politique des citoyens. Et ben, c'est ce que nous ferons en lisant attentivement les premiers chapitres du livre 11 et ceux du livre 12. Livre 11, qui traite, comme l'indique le chapitre premier très court de ce livre 11, il traite, voyez-vous, des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution. Et puis le livre 12, lui, il traitera des lois qui forment cette liberté dans son rapport avec le citoyen. Mais nous allons d'abord nous occuper du livre 11. Alors, une remarque tout de même, avant de commencer, l'interrogation de Montesquieu certes, à une portée générale, mais on peut dire aussi qu'elle répond à une inquiétude concernant le risque de despotisme qui menace, selon lui, l'Europe à son époque. Et si vous regardez bien la page 3, vous voyez que au chapitre 8, le premier texte en haut, eh bien voilà ce qu'écrit Montesquieu dans le deuxième paragraphe du chapitre 8 du livre 8. Je lis: la plupart des peuples d'Europe sont encore gouvernés par les mœurs, mais si par un long abus de pouvoir, si par une grande conquête, le despotisme s'établissait à un certain point, il n'y aurait pas de mœurs et de climat qui tinssent, et dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffrirait, au moins pour un temps, les insultes qu'on lui fait dans les trois autres. Et que Montesquieu est extrêmement inquiet, très inquiet, du devenir de son propre continent. Le despotisme a déjà triomphé sur les trois autres continents, et maintenant il menace l'Europe. La liberté n'y subsiste qu'à la faveur d'un climat tempéré, qu'à la faveur de la douceur des mœurs. Mais si l'abus de pouvoir qui est propre aux monarchies absolues, et il pense ici surtout à la monarchie française, si l'abus de pouvoir s'installe durablement, eh bien, le despotisme risque de s'imposer de façon durable. Il n'est pas très, très optimiste. Et d'ailleurs, il ne voit pas d'un très bon œil la colonisation qui a lieu à son époque, la traite des Noirs, qui fait appel massivement à l'esclavage, parce qu'il a peur qu'en Europe, on réintroduise des esclaves. Il y a des projets qui vont en ce sens. Il s'agirait de faire venir des esclaves de l'Asie, vous voyez, pour effectuer des travaux pénibles, par exemple dans les mines. Donc il n'est pas très optimiste sur ce point. Et bon, il est le premier, il faut le rappeler, qui condamne l'esclavage. C'est vraiment le premier. J'ai envie de poser la question, et nous, Européens d'aujourd'hui, en quoi le propos de Montesquieu peut-il avoir pour nous un écho ? Est-ce que nous n'avons pas des motifs aussi d'être inquiets quant au devenir des États de droit, qui voient parfois une concentration des pouvoirs, un effacement des contre-pouvoirs, et aussi une pérennisation de toute une série de mesures liberticides établies à l'occasion de la lutte contre le terrorisme, de celle contre l'épidémie de Covid, et peut-être un jour, peut-être, ça c'est un problème qu'on peut se poser, est-ce qu'on ne risque pas de telles mesures aussi en fonction d'une logique de guerre ? Est-ce que l'état de droit n'est pas aujourd'hui en danger ? Voilà la question que nous nous posons. Bon, mais avant d'examiner les conditions institutionnelles qui seules peuvent arrêter l'abus de pouvoir et assurer la liberté politique des citoyens, il va être d'abord nécessaire d'entendre, de savoir ce que l'on entend par là. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie la liberté politique ? Et c'est à cette explication que Montesquieu consacre les premiers chapitres du livre 11. Vous voyez, les premiers chapitres du livre 11 que vous avez sous les yeux, page 1. Après avoir présenté au chapitre 2 la diversité des opinions sur le sujet de la liberté, eh bien, il explique qu'à partir du chapitre 3, et puis continue au chapitre 4, il explique ce que c'est que la liberté, puisque c'est là le titre du chapitre 3. Et on pourra compléter cette explication par le chapitre 2 du livre 12, qui se trouve à la page suivante, où Montesquieu aborde la liberté du citoyen. Alors, pour déterminer ce qu'est la liberté politique, il va falloir la distinguer d'abord de ce que l'on nomme la liberté philosophique, la liberté philosophique de l'homme, qui relève d'une question métaphysique. Et puis ensuite, il faudra la distinguer de ce avec quoi on est souvent tenté de la confondre, qu'il faut appeler exactement l'indépendance. Et l'indépendance n'est pas la liberté politique. Donc ce sont les deux points qu'il faut d'abord envisager. Alors voyons la première distinction. Alors je lis le texte, page 2, le texte du chapitre 2 du livre 12 qui se trouve à droite, le début. Je lis tout simplement le texte, chapitre 2, le titre de la liberté du citoyen, premier paragraphe. La liberté philosophique consiste dans l'exercice de sa volonté, ou du moins, s'il faut parler dans tous les systèmes, dans l'opinion où l'on est, que l'on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. Voilà. Alors, la liberté philosophique, c'est l'objet d'un débat entre les philosophes. Et on a eu l'occasion de le voir dans les premières séances que nous avons faites sur la liberté. Alors le problème, vous le savez, c'est celui de savoir si la volonté humaine est réellement libre ou non, ou si le sentiment que l'homme a de sa liberté n'est pas tout simplement illusoire. Pour le dire de façon plus directe, plus courte, est-ce qu'il y a ou non un libre arbitre, ou ne s'agit-il là que d'une illusion ? Il est clair que pour les philosophes qui défendent l'idée d'un déterminisme absolu, eh bien évidemment, il n'y a pas de volonté libre. Ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'une opinion que l'homme a de sa liberté. Mais Montesquieu refuse ici d'entrer dans ce débat. Ce n'est pas son problème ici. La question n'est pas ici de savoir si la volonté humaine est libre ou non. La question, c'est de savoir ce que la volonté humaine peut faire en société. Jusqu'où pouvons-nous agir ? Dans quelles limites ? Voilà la question qui va se poser. Le problème donc de la liberté politique, c'est celui de savoir en quel sens l'homme est libre en société. Alors, s'il est vrai que la liberté politique n'est pas la liberté philosophique, on peut rappeler toutefois que cette dernière est pour Montesquieu à l'origine du problème dont la solution, c'est-à-dire l'établissement d'un droit, permet d'établir la liberté politique. Et il me paraît nécessaire, si vous voulez, de rappeler brièvement pourquoi et comment. Souvenez-vous de ce que Montesquieu a montré au chapitre premier de son premier livre, qui est de loin, vous vous souvenez, le chapitre le plus, je dirais, le plus philosophique, le plus métaphysique de son œuvre. Et je vous ai photocopié, page 3, vous verrez, quelques petits extraits de ce chapitre. Bon, mais on ne va pas les lire, hein, c'est simplement pour vous. Dans ce chapitre, donc chapitre 1er du livre 1, vous vous souvenez, il s'interroge sur les lois qui dérivent de la nature des divers êtres. Il écrit « Tous les êtres ont leurs lois, aussi bien la divinité, le monde matériel, les êtres intelligents, que les bêtes. Tous les êtres ont leurs lois. Elles sont différentes, selon la nature des êtres. Mais surtout, et c'est ça que vous devez surtout retenir, surtout, il montre que contrairement au monde physique, qui est gouverné par des lois constantes, comme la loi de la chute des corps, le monde intelligent ne suit pas constamment les siennes, et que la raison principale de cette inconstance elle est dans la nature des êtres intelligents, comme le sont les hommes. Les hommes sont des êtres intelligents. Et comme l'explique Montesquieu dans ce fameux chapitre premier, voilà ce qu'il dit, il est dans leur nature d'agir par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont libres. C'est une certaine manière de parler ici de la liberté de la volonté. Hein, la définition philosophique de la liberté. Ainsi, en tant qu'être intelligent, les hommes peuvent s'écarter des lois primitives qui gouvernent leur intelligence, qui, je vous le rappelle, sont des règles de justice innées, que Montesquieu appelle des rapports d'équité. Vous vous souvenez de cela ? Hein ? Ce sont des lois qu'il découvre dans son intelligence, qui sont des lois de justice, qu'il appelle des lois primitives, parce qu'elles ne sont pas faites par lui, elles sont en lui. Et, au fond, ce sont des lois qui stipulent ce qui est juste et ce qui est injuste. On voit donc que la liberté philosophique de l'homme se caractérise d'abord, elle s'affirme d'abord par la possibilité qu'il a de désobéir aux lois, à commencer par ces lois de justice qu'il découvre dans son intelligence et qu'il n'a point faites. L'homme est un être qui a le pouvoir de s'écarter des lois qui gouvernent son intelligence. Et c'est bien parce que la liberté est un pouvoir d'infraction que Montesquieu est conduit à réfléchir au remède qui permettra d'éviter qu'elle ruine toute possibilité de vie en société. C'est bien parce que l'homme, la liberté de l'homme, la liberté constitutive de la nature humaine est une liberté négative, au fond, une liberté d'infraction, qu'il va falloir réfléchir au remède qui va permettre effectivement aux hommes de vivre en société et ne pas être victimes de cette liberté. Et comme il l'explique, vous vous souvenez là encore, au chapitre 2 et 3 du premier livre, dès que l'intelligence humaine s'éveille, à l'issue d'un processus de socialisation et d'acquisition des connaissances, eh bien les hommes sont tentés d'entrer en guerre les uns contre les autres. Vous vous souvenez de cela, ce point ? Et aussi longtemps que les hommes sont réduits à leur biologie, selon la fameuse hypothèse d'un état de nature, à laquelle recourent assez volontiers les philosophes. Eh bien, Montesquieu reprend cette hypothèse. Qu'est-ce que serait l'homme dans un tel état, s'il était réduit, au fond, à sa biologie, à vivre comme un animal ? Eh bien, l'homme ne pourrait y avoir aucun désir de domination sur les autres. Pourquoi ? Parce que, dans un tel état, les hommes seraient des animaux craintifs, portés à fuir leurs semblables. C'est-à-dire que l'état de nature ne peut pas être un état de guerre. C'est un état, au contraire, où les hommes cherchent à se fuir. Ils ont un sentiment de faiblesse et de détresse qui les porte plutôt à se fuir. Et c'est seulement en se socialisant, en développant leur intelligence, en acquérant des connaissances, que ce sentiment de faiblesse se renverse en sentiment de force et que les hommes cherchent alors à s'accaparer par la violence les principaux avantages de la société, comme le dit exactement Montesquieu, les principaux avantages de la société. Ainsi naît ce que Montesquieu appelle l'état de guerre. L'état de guerre entre les hommes qui va les contraindre à trouver un remède pour éviter de s'entretuer. État de guerre où l'on voit que l'intelligence de l'homme exerce, au fond, un rôle ambivalent. Ambivalent parce que, d'un côté, elle est ce qui pousse les hommes à agir par eux-mêmes, en s'écartant des règles de justice qui gouvernent leur intelligence et à faire violence aux autres hommes pour assouvir leurs passions. Et puis de l'autre, elle est ce qui leur permet d'envisager un remède à cet état de guerre que leur liberté engendre, que leur liberté d'infraction engendre, en établissant des lois politiques et civiles qui leur permettent de s'unir en société. Vous voyez ? Ambivalence. Et donc, si je résume, vous voyez que la liberté d'infraction, cette liberté négative qui est constitutive de la nature de l'homme, au fond, la liberté philosophique de l'homme, eh bien, cette liberté est à l'origine d'un état de guerre entre les hommes dont le seul remède est l'établissement d'un droit, droit qui va produire la liberté politique. Vous voyez que, d'une certaine façon, la liberté négative de l'homme nous conduit, finalement, à la liberté politique, en tant qu'elle va résulter d'un remède au mot créé par la liberté philosophique. Vous voyez que ce rappel nous permet de comprendre pourquoi la liberté politique se définit comme l'antidote de cette liberté d'infraction qui est constitutive de la nature de l'homme. Et je reprends la définition que Montesquieu donne de la liberté politique au chapitre 2, livre 12. La liberté politique consiste dans la sûreté. Vous voyez, le terme de sûreté est très important. Elle consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. Alors, je commande cette définition très originale, très très originale. Elle ne consiste pas, vous voyez, la liberté politique ne consiste pas dans l'exercice de sa volonté, mais dans la sûreté. Et qu'est-ce que c'est que la sûreté ? Ben, c'est le fait d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, à l'abri de l'arbitraire qui provient de la volonté des autres. La sûreté, c'est le sentiment dont on jouit quand on est protégé par les lois et qu'on cesse de vivre sous la menace et dans la crainte. Et vous trouvez, d'ailleurs, chapitre 6 du livre 11, dans son paragraphe 3, une définition encore plus précise et plus explicite de la liberté politique, qui complète celle que je viens de vous lire. On peut la trouver donc au chapitre 6. Ben, c'est toujours page 2, mais cette fois-ci dans la colonne de gauche, en haut à gauche. Le troisième paragraphe, regardez bien, ligne 13, je lis. La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Vous voyez cette définition ? Alors, vous voyez ici que cette définition renforce la première. C'est-à-dire que, qu'est-ce que montre Montesquieu ? C'est que la liberté politique, ce n'est pas une opinion passagère. Ce n'est pas un sentiment de sécurité momentané. C'est cette tranquillité d'esprit que l'on acquiert quand on vit dans un gouvernement dont les lois nous protègent de l'arbitraire. C'est ça qui est important. Donc, celui qui ne dépend que des lois, eh bien, ne dépend pas de l'arbitraire des hommes. Au fond, c'est ça l'idée, hein, c'est que le seul moyen de ne pas dépendre de l'arbitraire des hommes, c'est de vivre dans un gouvernement dont les lois, justement, nous protègent de cet arbitraire. C'est-à-dire, c'est la seule façon de ne pas dépendre des hommes, c'est de ne dépendre que des lois. Et Celui qui ne dépend que des lois, eh bien, il jouit d'une tranquillité d'esprit, car il sait à quoi s'en tenir, sur ce qui peut lui arriver. Il sait ce qui est obligatoire, il sait ce qui est permis, ce qui est défendu, et il cesse de vivre dans la crainte de se faire arrêter à tout moment pour un motif qu'il ne connaît pas la plupart du temps, comme c'est le cas dans un état despotique. Vous vous promenez dans la rue, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Alors, si Montesquieu écarte la volonté, vous voyez, dans sa définition de la liberté politique, c'est bien parce que la volonté est dangereuse. La volonté est dangereuse quand elle s'affirme arbitrairement, quand elle prétend légiférer en ne considérant que ce qu'elle veut. Et c'est pourquoi, comme on a déjà pu le voir, c'est pourquoi Montesquieu récuse la définition républicaine de la liberté politique, selon laquelle, effectivement, un peuple est libre parce qu'il participe à l'élaboration des lois, parce qu'il décide des lois. Eh bien, pour Montesquieu, vous vous souvenez, nous l'avions dit, c'est là confondre le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple. Un peuple a le pouvoir en ce qu'il décide des lois qu'il se donne, comme dans une démocratie, mais il n'est pas libre pour autant. Il n'est pas libre pour autant et il n'est libre que si son pouvoir est modéré et réglé par des lois qui protègent les citoyens contre l'arbitraire. Vous voyez la différence ? Et là, je lis chapitre 3, le début du chapitre 3, page 1. En bas, colonne de gauche, il est vrai que dans les démocraties, le peuple paraît faire ce qu'il veut, mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l'on veut. Ouais, c'est clair, hein ? Alors, après avoir levé la confusion entre le pouvoir du peuple et la liberté du peuple, entre la liberté politique du citoyen et l'exercice de la volonté, après avoir levé cette confusion, eh bien, Montesquieu va distinguer la liberté politique de l'indépendance. C'est la deuxième distinction que j'avais formulée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance ? L'indépendance, c'est l'état de celui qui ne dépend que de lui-même et qui n'a donc à rendre compte de ses actes à personne. L'indépendance, c'est la condition qui caractérise l'homme dans la fameuse hypothèse de l'état de nature, dans ce que les philosophes appellent l'état de nature. Mais contrairement à ces philosophes qui considèrent qu'à l'état de nature, les hommes sont libres naturellement et que l'État institué doit préserver cette liberté. C'est ce que pensent les philosophes du contrat social. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Au fond, le but des institutions politiques, c'est de préserver la liberté des hommes, vous voyez, de la garantir par des lois. Bien, contrairement à ces philosophes, Montesquieu considère qu'à l'état de nature, il n'y a pas de liberté naturelle. Il n'y a pas de liberté naturelle parce que, au fond, dans cette hypothèse, on l'a vu, les hommes vivent comme des animaux craintifs. Ils sont tous également soumis à la même faiblesse et à la même détresse. Ils sont égaux, oui, en ce sens, mais ils ne sont pas libres. Ils vivent dans l'insécurité, dans une insécurité radicale. Donc, si vous voulez, jamais Montesquieu ne conçoit la liberté comme une propriété naturelle de l'individu que les institutions politiques devraient préserver. Ça, c'est ce que dit, par exemple, un philosophe comme John Locke. Vous voyez, philosophe du contrat social, ce n'est pas ce que dit du tout Montesquieu. La liberté ne peut être qu'un fait social. Elle ne peut exister qu'en société, mais pas n'importe quelle société, une société réglée par des lois. Et comme il va le démontrer donc au chapitre 3, donc elle ne peut exister que dans une société où l'action des hommes est réglée par des lois, où la coexistence des hommes est réglée par des lois. Et vous allez voir que la démonstration de Montesquieu dans ce chapitre 3, eh bien, elle va mobiliser deux couples de termes opposés contradictoirement. Alors, on va lire d'abord le texte, et puis je vais repérer avec vous les deux couples en question. Regardez la deuxième phrase, chapitre 3. Dans un État, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. Il faut se mettre dans l'esprit que ce que c'est que l'indépendance et ce que c'est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent, et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus liberté, parce que les autres auraient tout de même, c'est-à-dire de la même manière, ce pouvoir. Alors, pour bien comprendre le texte, il faut d'abord repérer les deux couples d'opposés contradictoires qui le structurent. Vous avez d'abord un premier couple d'opposés contradictoires qui est ce que l'on doit vouloir et ce que l'on ne doit pas vouloir. Vous avez repéré. Ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est ce que les lois permettent et puis ce qu'elles défendent. Alors j'explique en quel sens il faut considérer que ce sont des opposés contradictoires. Ce sont des opposés contradictoires comme, en logique, on dit que le contradictoire de A, c'est non A. Ou pour prendre un exemple très simple, le contradictoire de noir, c'est non noir, ce n'est pas blanc. C'est non noir. C'est-à-dire, au fond, le contradictoire de noir, c'est tout ce qui n'est pas noir, c'est-à-dire, au fond, toutes les nuances du gris jusqu'au blanc. Vous voyez ? C'est beaucoup plus large que le blanc seulement. Vous voyez, vous comprenez, hein ? Eh bien, il faut avoir ça en tête pour comprendre le raisonnement ici de Montesquieu. Je prends le premier couple d'opposés contradictoires. Donc, la liberté politique consiste non pas à pouvoir faire tout ce qu'on veut, non pas à pouvoir tout faire, mais, comme il le dit, à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, c'est-à-dire ce que la loi rend obligatoire, ce que la loi définit comme obligatoire, ce qu'elle prescrit, hein, ce qu'elle prescrit, expressément. Et, corrélativement, elle consiste à pouvoir refuser de faire ce qu'on ne doit pas vouloir, ce qu'on ne doit pas vouloir, c'est-à-dire ce qui n'est pas obligatoire. Je peux refuser de faire ce qui n'est pas obligatoire, ce que la loi ne prescrit pas expressément. Donc, vous voyez que la loi pose des limites, elle pose les limites de ce qu'on peut faire, et évidemment, elle exige l'exécution de ce qu'elle définit comme obligatoire, de ce que l'on doit vouloir. Alors, on peut toujours prendre des exemples, si vous voulez, c'est toujours plus facile avec les exemples. Je dois, par exemple, m'acquitter de mes impôts, en temps et en heure, et si je ne les paie pas en temps et en heure, ben, je serai sanctionné par une majoration. Et si je refuse de les payer, ben, je serai passible d'une sanction beaucoup plus lourde. Vous voyez que si le citoyen ne fait pas ce qu'il doit vouloir, eh bien la loi peut faire appel à l'usage de la force publique pour rendre effective son exécution. On est d'accord là-dessus. Au-delà maintenant, au-delà des limites que fixe la loi, il y a tout ce qui n'est pas obligatoire. Tout ce qui est non noir, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et ce qui n'est pas obligatoire, nul ne peut contraindre un citoyen de le faire. C'est ce que dit exactement Montesquieu. Je reprends sa formule. La liberté politique consiste à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit point vouloir. Donc ce qui n'est pas obligatoire. Toute contrainte, qu'elle soit physique ou morale, que ce soit, une menace, du chantage, toute contrainte est dans ce cas considérée comme un acte de violence qui porte atteinte à la liberté du citoyen. Personne ne peut contraindre un citoyen de faire ce que la loi ne définit pas comme obligatoire. Et la loi protège le citoyen contre les actions qui le contraindraient de le faire parce qu'elles sont attentatoires à sa liberté. On ne peut pas me contraindre de porter tel type de vêtements dans la rue. Voilà. Considérons maintenant le second couple d'opposés contradictoires. C'est la suite. Je lis à nouveau. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent, et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus liberté parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. J'ai repris ce passage. Donc, il y a ce qui est permis, ce que la loi permet. Et ce qui est permis par la loi, eh bien, c'est le domaine de tout ce qu'elle ne défend pas. Oui, c'est le domaine de tout ce qu'elle ne défend pas, de tout ce qu'elle n'interdit pas. Et ce qu'elle permet, elle donne le droit de le faire. Et quand je dis qu'elle donne le droit de le faire, il faut être clair là-dessus. Ça ne signifie pas que la loi tolère que je le fasse ou qu'elle m'autorise à le faire. Elle me permet de le faire. C'est mon droit. C'est mon droit. Donc, si vous voulez, encore une fois, comprendre l'importance, mesurer l'importance de cette opposition établie par la loi, on va encore reprendre quelques exemples concrets, je crois que c'est toujours mieux. Par exemple, je n'ai pas le droit d'utiliser ma perceuse pour faire des travaux chez moi, je suis très bricoleur, à partir de 22h, les jours de semaine. Mais j'ai tout de même le droit d'utiliser pendant la journée. C'est permis par la loi. Et mon voisin qui a envie de faire la sieste à 2h de l'après-midi, il râle, il n'est pas content, il vient me déranger, il me dit « Non, ça suffit, vous ne pouvez pas continuer. » Il ne peut pas déposer plainte pour m'empêcher de le faire, en se plaignant de nuisances sonores. Après 22h, oui. Alors je lui dis « Monsieur, je suis désolé, mais là, je peux, j'ai le droit. » C'est la loi. De la même manière, j'ai le droit d'exprimer une opinion, même si elle déplaît à un certain nombre de gens, dans les limites de la loi. Il ne faut pas que ce soit des propos diffamatoires. Il ne faut pas que ce soit des propos racistes, qui sont considérés comme des appels à la violence. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense de telle religion, de tel homme politique. J'ai même le droit de dire des conneries. J'ai le droit de dire que la terre est plate. C'est pas un crime. C'est de la bêtise, mais c'est pas un crime. Donc vous voyez qu'en règle générale, nul ne peut intenter un procès en justice contre quiconque fait ce que la loi permet. En revanche, comme l'écrit encore Montesquieu, si un citoyen pouvait faire ce que les lois défendent, cela voudrait dire alors que tous pourraient le faire. Dès lors, l'opposition établie entre ce qui est permis et ce qui est défendu, cette opposition s'effacerait, la loi serait détruite, et la destruction de la loi entraînerait avec elle la destruction de la liberté politique des citoyens. Parce qu'un citoyen qui se croirait libre en faisant ce que les lois défendent n'aurait plus en réalité de liberté. Il n'aurait plus aucune liberté en réalité, puisqu'il serait désormais exposé à l'arbitraire de n'importe qui. Donc si nous concluons sur ce point, voyez bien que la liberté n'est pas l'indépendance, qui revient à prétendre faire tout ce que l'on veut sans limite. Et si les lois n'existaient pas pour déterminer ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, ce qui est permis et ce qui est défendu, la liberté serait détruite. Chacun serait exposé à l'arbitraire des autres. Vous voyez donc que la liberté politique, la liberté n'existe que par les lois auxquelles tous doivent être soumis, y compris les gouvernants. Donc vous voyez que ici, pour Montesquieu, on ne peut pas parler de la liberté naturelle, ça n'a pas de sens. Il n'y a de liberté que dans le cadre d'une société. Et toute la question, c'est de préserver ce cadre. Alors, donc, j'ai bien compris, la liberté n'existe que par les lois. Mais on est tenté de faire ici une objection. Est-ce qu'on n'appelle pas loi, parfois, des textes liberticides? Est-ce qu'on peut se contenter d'une simple dénomination? Est-ce qu'il ne faut pas admettre qu'il y a des lois qui ne méritent pas leur nom? Et comment dès lors s'assurer qu'une loi ne soit pas la décision arbitraire d'un homme ou d'un groupe d'hommes qui imposent leurs intérêts à la société tout entière, au détriment des autres? Pour l'instant, la seule chose dont nous soyons sûrs, à ce stade de notre réflexion, c'est comme le dit Montesquieu au chapitre 4, regardez le chapitre 4 en haut à droite, je lis, deuxième phrase, « La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. » La seule chose que je puisse dire pour l'instant, elle ne se trouve que dans les gouvernements modérés, c'est-à-dire les gouvernements réglés par des lois. Seulement, évidemment, ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas exister dans des gouvernements despotiques. Ou, pour reprendre une formule de Montesquieu dans le livre 5, que j'avais cité déjà, où la loi est seulement la volonté momentanée du prince. Dans un état despotique, la loi n'est que la volonté momentanée du prince. Seulement, bon, on est d'accord là-dessus. Ce que je viens de vous dire est incontestable, elle n'existe que dans les gouvernements modérés. Mais c'est loin d'être suffisant. Car comme le précise aussitôt Montesquieu, juste après, elle, c'est-à-dire la liberté, mais elle, n'est pas toujours dans les états modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir. Hein, je reprends. Mais elle n'est pas toujours dans les états modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir. Et s'il y a abus de pouvoir, eh bien, les lois risquent d'être ce que Montesquieu va appeler au chapitre 6 des lois tyranniques. C'est-à-dire des lois dictées abusivement par un pouvoir qui impose son arbitraire. Vous voyez, il utilise l'expression de loi tyrannique. Donc il y a des lois qui ne sont pas vraiment des lois. Ah oui, évidemment, elles sont appelées comme telles. Mais elles ne sont pas vraiment des lois. Donc, il va falloir réfléchir là-dessus. Comment La question, ça va être comment éviter l'abus de pouvoir? Comment faire pour que les lois ne soient pas les simples décrets d'un pouvoir qui abuse? Voilà le problème. Alors, la solution que va lui donner Montesquieu est la suivante. La seule solution qui peut éviter que l'État ne se transforme en instrument d'oppression, c'est celle d'une constitution. Une constitution qui divise le pouvoir et arrête le pouvoir par le pouvoir. C'est ce qu'il indique, chapitre 4, juste après, dans le second paragraphe. Et je lis ce passage juste après la formule célèbre, hein, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites, qui le dirait, la vertu même a besoin de limites, et voilà le passage que je souligne maintenant. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas et à ne point faire celles que la loi lui permet. Donc voilà, la solution d'une constitution. Une constitution, c'est un dispositif qui organise les pouvoirs, qui les divise, de telle sorte qu'ils puissent s'arrêter les uns les autres, qu'ils puissent se faire contrepoids. Eh bien, cette solution de Montesquieu, c'est l'exact contre-pied de celle du philosophe Thomas Hobbes, et je voudrais en parler, ce grand philosophe politique anglais qui a publié en 1651 Le Léviathan, cette œuvre magistrale. Et le Léviathan, c'est un monstre biblique par lequel Hobbes figure un État tout-puissant. Un État tout-puissant qui concentre tous les pouvoirs, un État absolu. Eh bien, vous allez comprendre que ce qu'écrit Montesquieu, c'est le contre-pied, c'est le contraire, hein, de ce que montre Thomas Hobbes. C'est pour ça que je n'hésite pas à les opposer. Alors, quelques mots sur ce que dit Thomas Hobbes. Au fond, le point de départ est à peu près le même que celui de Montesquieu. Pour sortir de la violence de l'état de guerre, de l'état de guerre de tous contre tous, qui expose chacun à une mort violente. Quelle est la solution pour Hobbes? La solution est pour lui d'instituer un État par un pacte social et de transférer sur cet État la peur diffuse qui règne dans l'état de guerre. Dans l'état de guerre, les hommes ont peur les uns des autres, ils vivent dans la peur. Ils sont livrés à l'arbitraire. Ils peuvent mourir d'une mort violente. Bon, puisqu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi, c'est la loi du plus fort, une loi du plus fort qui est d'une loi instable. Donc, quelle solution? Faire en sorte que les hommes cessent de se craindre mutuellement, et pour qu'ils cessent de se craindre mutuellement, il faut faire en sorte que la crainte se polarise sur le pouvoir, que seul le pouvoir ait à se faire craindre. C'est comme ça qu'il établira la paix. C'est-à-dire que si l'État se fait craindre de tous, il pourra assurer la paix civile et il permettra à chacun de conserver sa vie. Donc ça passe par une concentration des pouvoirs. L'État, celui qui dirige l'État, ce qu'on appelle le souverain, qu'il soit un homme ou une assemblée, eh bien, il doit disposer de tous les pouvoirs. Et le pacte social, si vous voulez, c'est cet accord consenti. Enfin, si vous voulez, c'est une fiction, pour dire que tout se passe comme si les hommes, d'un commun accord, au fond, s'en remettait à ce pouvoir, hein, eh bien, le pacte social, c'est ainsi un pacte mutuel par lequel chacun, au fond, accepte de s'en remettre au souverain, donc c'est-à-dire, comme je l'ai dit, à celui qui dirige l'État, que ce soit un homme ou une assemblée. Pour Thomas Hobbes, la forme du gouvernement n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a un pouvoir qui se fasse obéir. Et Hobbes écrit au chapitre 17 du Léviathan, ce passage que je vous lis, c'est comme si chaque individu devait dire à tout individu, j'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorise toutes ses actions de la même manière. Donc, pacte mutuel, chacun renonce, hein, à son droit de se gouverner lui-même au profit d'un souverain qui gouvernera au nom de tous. Vous voyez, c'est comme ça qu'est fondé l'État. Donc, voilà la solution de Thomas Hobbes. Hein ? Mais finalement, il s'agit en quelque sorte de capter la crainte. Il s'agit de faire en sorte que le pouvoir capte la crainte et la concentre sur lui pour obtenir effectivement l'obéissance des sujets et de cette manière la paix civile. Or, pour Montesquieu, cette solution de Hobbes est à la fois illusoire et dangereuse. Elle ne met pas un terme à la violence. Elle l'institutionnalise en la concentrant dans la personne du souverain, en lui confiant à lui seul le pouvoir de décider au nom de tous. Vous voyez ? Et que ce souverain soit un homme ou une assemblée, il exerce alors seul le pouvoir, il décide seul des lois et de leur exécution, et c'est la crainte qu'il inspire à ses sujets qui lui permet de s'en faire obéir. Mais son pouvoir ne peut pas être contesté. C'est lui qui décide de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Il n'y a rien au-dessus de lui. Vous voyez, il n'y a pas de loi au-dessus de lui. C'est lui qui fait la loi. Alors évidemment, pour Montesquieu, la solution de Hobbes ressemble fort à l'institution d'un État despotique. Bon, Hobbes est le théoricien du pouvoir absolu. Et évidemment, pour Montesquieu, au lieu de concentrer tous les pouvoirs dans les mêmes mains, la solution est tout au contraire de distribuer ses pouvoirs dans des mains différentes. Sa solution, c'est de diviser le pouvoir. C'est de diviser le pouvoir et de distribuer les différents pouvoirs dans des mains distinctes. Et pour illustrer cette solution, eh bien, il choisit d'étudier l'exemple contemporain de la Constitution d'Angleterre, chapitre 6. Alors, il faut savoir que, à la suite de la glorieuse révolution de 1688, parce que l'Angleterre a été troublée au XVIIe siècle, hein, il y a eu plein d'événements. Le premier roi qui a eu la tête coupée, c'est Charles Ier. Hein. C'est pas Louis XVI. Hein. Bon. Il y a eu plein d'événements, hein, plein de troubles en Angleterre. Bon, en 1688, il y a une deuxième révolution, la Glorieuse Révolution, qui va permettre aux Anglais d'établir une monarchie constitutionnelle. Et donc, c'est cette monarchie, hein, qui va inspirer ici Montesquieu. Mais contrairement à ce que l'on dit souvent, Montesquieu n'en fait pas un modèle. Ce n'est pas un modèle. Alors, je ne vais pas encore expliquer pourquoi, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Hein, pour Montesquieu, il ne peut pas y avoir de modèle de bon gouvernement dans l'absolu. Je ne reprends pas l'explication. Mais Qu'est-ce qu'il fait de cette constitution ? Il en fait un objet d'étude privilégié. Elle est, selon le terme même utilisé par Montesquieu, elle est un miroir, c'est le terme qu'il emploie, vous voyez, il ne parle pas de modèle, il parle de miroir, elle est un miroir grâce auquel on peut réfléchir aux conditions qui assurent la liberté politique. Alors, miroir ne signifie pas que Montesquieu va se contenter d'écrire la réalité institutionnelle de l'Angleterre. Il ne va pas se contenter de décrire ce qu'il voit. Non, parce qu'il va éliminer d'ailleurs un certain nombre d'aspects de cette Constitution, un certain nombre de ses lacunes. Il va, en quelque sorte, procéder par une épure, hein, voyez. Il va construire une sorte de d'objet, il va construire une sorte d'objet de laboratoire qui lui permettra de réfléchir. C'est-à-dire, au fond, il va faire une sorte d'expérience de pensée, en quelque sorte, en s'appuyant sur la Constitution d'Angleterre. Or, s'il se bornait à une description empirique, il utiliserait le présent de l'indicatif. On ne sait pas ce qu'il fait. Il écrit au conditionnel. Et pourquoi il écrit au conditionnel ? Pour souligner qu'il s'agit pour lui avant tout de déterminer les conditions sans lesquelles la liberté politique serait anéantie. Comme en témoigne d'ailleurs un passage, le paragraphe 6 du chapitre 6, voyez page 2, là vous allez comprendre, ce passage est très clair. Donc, ligne 31, vous voyez qu'il s'exprime au conditionnel. Tout serait perdu, hein, ligne 31, donc le chapitre 6, colonne de gauche, page 2. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps de principaux, le même corps des principaux, c'est-à-dire des magistrats, ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Vous avez repéré ce passage. Tout serait perdu. Vous voyez, il écrit au conditionnel. Au fond, son problème, c'est quelles sont les conditions qui assurent la liberté politique et que se passerait-il s'il n'y avait pas ces conditions ? Voilà, c'est comme ça qu'il pose le problème. Contrairement à ce qu'on dit encore, Montesquieu ne préconise pas une séparation des pouvoirs. Vous entendez sans cesse dire que Montesquieu, c'est celui qui a conçu la séparation des pouvoirs. C'est faux. Bon, on peut comprendre qu'on puisse parler ainsi, mais c'est faux. Et vous allez comprendre pourquoi. L'idée d'une séparation des pouvoirs consiste à soutenir que le pouvoir de légiférer, le pouvoir d'exécuter et puis le pouvoir de juger doivent être distribués à trois organes distincts et indépendants, isolés les uns des autres. Pour chacun des trois pouvoirs, il y aurait ainsi le Parlement qui disposerait du pouvoir législatif, le monarque qui disposerait du pouvoir exécutif, et puis les tribunaux qui disposeraient du pouvoir judiciaire. Et ces trois organes, eh bien, exerceraient leurs fonctions en toute indépendance, à l'abri de toute influence venant de l'un ou de l'autre des autres organes. Voilà comment on conçoit une séparation. Or, l'idée d'une séparation des pouvoirs est en contradiction avec l'exigence de Montesquieu qui est qu'on arrête le pouvoir par le pouvoir. Si l'on veut que le pouvoir arrête le pouvoir, il faut que les pouvoirs soient en mesure de s'opposer. Ce n'est guère possible s'ils sont séparés et totalement indépendants les uns des autres. pour qu'ils puissent se faire contrepoids, il faut que quelque part, il y ait un contact, un point de contact. Il faut qu'ils puissent jouer les uns contre les autres. Vous voyez ? Alors, Montesquieu, on va le voir, distingue trois pouvoirs, mais il ne les sépare pas. Il va surtout s'agir de les distribuer dans des mains différentes, dans des organes différents. Le mot qui convient le mieux, c'est le mot de distribution, et non pas celui de séparation. Alors, si maintenant, regardez bien, si on examine la Constitution d'Angleterre, eh bien, vous allez voir, là, je vais aller à l'essentiel, hein, parce que le chapitre est assez long, eh bien, vous allez voir que le Parlement ne fait pas seulement les lois, il contrôle aussi leur application par le pouvoir exécutif. Donc, il exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Les ministres doivent justifier leur action devant le Parlement. Et inversement, le pouvoir exécutif, qui est exercé par le monarque, dispose d'une part de la puissance législative, par ce que Montesquieu appelle une faculté d'empêcher, autrement dit un droit de veto. Le monarque dispose d'un droit de veto. C'est-à-dire que le Parlement élabore et vote les lois dont ses membres ont pris l'initiative, mais ces lois n'entrent en vigueur que si le monarque y consent, que s'il ne s'y oppose pas. Et vous trouvez ainsi, d'ailleurs, dans le long chapitre 6 consacré à la Constitution d'Angleterre, le dernier paragraphe que je vais vous lire, hein, le passage suivant, qui, à mon avis, est un bon résumé. Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif, c'est-à-dire le Parlement, y étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher, on va revoir ça, hein. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative. Alors, vous notez les verbes ici utilisés ? Enchaîner, lier. Pas de séparation. Hein ? Il n'y a pas de séparation. Et vous voyez que, loin d'envisager donc une séparation des pouvoirs, Montesquieu formule explicitement la nécessité de lier, d'enchaîner le pouvoir législatif au pouvoir exécutif, pour qu'il puisse se faire contrepoids, comme dans un mécanisme d'horlogerie. Et vous voyez aussi que ce passage que je viens de vous lire indique que le corps législatif lui-même est composé de deux parties. Et c'est un autre point très important. C'est-à-dire non seulement le pouvoir législatif est divisé entre le Parlement et le monarque, mais le Parlement lui-même, donc le corps législatif, est divisé en deux chambres, en deux assemblées. La première représente les nobles, la Chambre des Lords, et l'autre, la deuxième, elle représente le peuple, la Chambre des communes. Et vous voyez, cette division du Parlement en deux chambres permet aux forces sociales du pays de faire valoir leurs intérêts opposés. Et sur ce point, Montesquieu est très proche de Machiavel. Machiavel qui considérait que les grands, les élites et le peuple ont des intérêts inconciliables. C'est ce qu'il expliquait dans le chapitre 9 du Prince. Comme il n'existe aucun bien commun sur lequel ils puissent s'accorder, eh bien la solution, c'est d'équilibrer leurs ambitions concurrentes, d'éviter que les intérêts des uns ne conduisent à l'oppression des autres. Vous voyez que la Constitution va les enchaîner, en quelque sorte, et va les contraindre, et va contraindre ainsi donc les forces sociales qui ont des intérêts opposés à agir de concert. Vous voyez ? Ils n'ont pas les mêmes intérêts, donc forcément, ça va frotter, si vous voulez. Hein. Mais ils vont devoir modérer leurs intérêts. Parce qu'effectivement, la confrontation va permettre effectivement de modérer, de tempérer. Mais il faut une confrontation. Il est évident que les deux forces sociales n'ont pas les mêmes intérêts. Il n'y a pas de bien commun préalable, c'est pas vrai. Il y a forcément conflit. Mais ce conflit va être régulé. Vous voyez, de cette manière-là. Et ils vont être contraints d'agir ensemble, hein, de trouver une solution, de trouver une loi qui soit une sorte de compromis. Concernant la Chambre des communes, où se trouvent les représentants du peuple, ceux-ci sont élus au sein de circonscriptions électorales. Vous voyez ? Et je vous rappelle, on l'avait déjà dit, pour Montesquieu, la représentation, c'est une institution nécessaire qui permet d'éviter le danger d'une démocratie directe. Vous vous souvenez de ça ? L'élection des représentants, c'est une procédure aristocratique. N'oubliez pas que la procédure démocratique, c'est le tirage au sort, c'est pas l'élection. L'élection, c'est une procédure aristocratique qui permet de sélectionner ceux qui sont jugés les meilleurs. Ceux qui sont jugés les plus aptes à exprimer les intérêts du peuple, sans céder à ces passions aveugles et immédiates. L'idée de Montesquieu, il n'est pas le seul au XVIIIe siècle à penser ainsi, c'est que les représentants du peuple, peuvent jouer le rôle de filtre et de modérateur. Vous voyez, il canalise les passions du peuple. Ce serait dangereux que le peuple puisse s'exprimer directement. Hein, c'est toujours cette idée qui revient. Et donc, pour ces raisons, je vous le rappelle, les représentants ne sont pas des commissaires du peuple, contrairement à ce que dira, à ce que voudra Rousseau dans le contrat social. Hein. Les commissaires du peuple, ils ont un mandat impératif. Bon, c'est pas comme ça que Montesquieu l'envisage. Alors, si je récapitule, ce qui préserve donc de l'abus de pouvoir, donc ce n'est pas une séparation des pouvoirs, mais c'est leur distribution dans des organes distincts, et c'est aussi le partage du pouvoir législatif par plusieurs forces sociales et politiques. Alors, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire lorsque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont confondus dans les mêmes mains, et j'ajoute aussi quand ce sont les intérêts d'un seul groupe social qui commandent, la conséquence, c'est celle qu'énonce Montesquieu, chapitre 6, paragraphe 4, ligne 18 à 24, Ligne 18 à 24, bon, on va lire le paragraphe entier, c'est aussi bien. Lorsque dans la même personne, ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat, c'est-à-dire la même assemblée, ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Ouais, ce passage est très important. Et l'expression de loi tyrannique, que j'ai utilisée tout à l'heure, elle mérite ici un commentaire. Normalement, une loi a toujours un objet général. Elle définit ce qui est obligatoire pour tous. Ce qui est permis à tous, ce qui est défendu à tous, c'est ce qu'on a vu. Et elle ne considère normalement jamais des hommes ni des cas particuliers. voyez ? Elle ne privilégie et ne cible aucun groupe particulier. Par exemple, prenons des exemples encore une fois, une loi peut définir des fonctions hiérarchiques pour exercer des responsabilités. Seulement, si elle nomme par avance les titulaires de ces fonctions, ce n'est plus une véritable loi, c'est une loi tyrannique. Et une loi est encore tyrannique si elle est conçue pour discriminer une partie de la population. Vous voyez ? Et c'est bien ce qui risque d'arriver si c'est le même homme ou la même assemblée qui se trouve à la fois législateur et exécuteur des lois. Parce que les lois qui seront produites, elles seront élaborées seulement en vue de leur application à des cas particuliers. Vous voyez ? Et leur exécution, eh bien, sera elle-même tyrannique, puisque n'étant pas l'application d'une véritable loi, puisqu'étant plutôt l'application de décrets arbitraires, eh bien, leur exécution sera inévitablement un acte de violence. Vous voyez, c'est très important ce point-là. Très important. Et on pourrait, à partir de là, réfléchissez pour chaque loi, si c'est vraiment une loi, si elle n'implique pas une discrimination, etc. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, Montesquieu nous donne la règle, en quelque sorte. Le seul pouvoir qui doit être séparé, c'est le pouvoir judiciaire. Alors que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif doivent être liés et enchaînés, le seul pouvoir qui doit être séparé des deux autres, c'est, je répète, le pouvoir judiciaire. Et c'est la seule fois où Montesquieu parle de séparation. C'est-à-dire, formulé autrement, cela signifie que la justice doit être indépendante et que la liberté des citoyens est en danger. Elle est en danger si, justement, la justice n'est pas indépendante. Alors, lisons le paragraphe 5, chapitre 6, lignes 24 à 30. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutive. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Donc, deux cas de figure. Premier cas de figure, celui de la confusion du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que si le juge est en même temps législateur, on peut craindre qu'il ne fasse une loi qu'en vue du jugement qu'il veut prononcer. Deuxième cas de figure, celui de la confusion du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Si le juge détient lui-même la force publique, ou si à l'inverse c'est la police qui fait la justice, le risque est grand que celui qui détient les deux pouvoirs soit tenté d'arrêter un homme en vue de le déclarer coupable. Dans ces conditions, la présomption d'innocence n'existe plus. Comme le dit Montesquieu, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Le jugement rendu risque de n'être qu'un simulacre de jugement qui consiste à valider une décision qui est déjà prise par avance. Dans tous les cas, le problème est de s'assurer que le juge se limite à la stricte puissance de juger, sans confusion aucune avec d'autres puissances, sans dépendance à leur égard. Alors on me dirait, est-ce que, ça y est, on a trouvé les conditions qui permettent d'établir la liberté politique, est-ce que c'est suffisant ? Non. Non, ce n'est pas encore suffisant. Est-ce qu'on en a fini avec l'arbitraire ? Non. Pour assurer les conditions de la liberté politique, il ne suffit pas d'empêcher l'abus de pouvoir. Il ne suffit pas qu'une constitution distribue les pouvoirs dans des organes distincts, qu'elle sépare le pouvoir judiciaire des deux autres. Il faut encore que cesse l'arbitraire qui affecte les lois pénales, que Montesquieu appelle les lois criminelles. Et ce point est très important. C'est le dernier point que je vais traiter. C'est celui que je voudrais maintenant aborder. Je n'irai pas jusqu'au bout. On continuera, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je dirais que, je ferai la remarque suivante, c'est que le livre 11 est très célèbre, mais pour Montesquieu, c'est le livre 12 le plus important. Il a été président du Parlement de Bordeaux. Il a eu à juger. C'est une question qui lui tient à cœur. La question du droit pénal. Il est le premier à s'intéresser de façon approfondie à la question. Il ouvre un champ nouveau. Donc, j'attire votre attention sur ce sujet. Donc, ce problème est abordé dans le livre 12 de l'Esprit des lois, qui traite des lois civiles, celles qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen, je cite Montesquieu, et il traite tout particulièrement des lois pénales qui sont parmi les lois civiles, celles qui ont avec la sûreté du citoyen le rapport le plus sensible. Pourquoi ? Parce qu'elles mettent en jeu l'honneur, la fortune, la vie et la liberté des citoyens, comme l'écrit Montesquieu au livre 6. Vous voyez, les lois pénales, ce sont celles qui ont le rapport le plus sensible avec la sûreté du citoyen, parce que, je répète, elles mettent en jeu l'honneur, la fortune, la vie et la liberté des citoyens. Et je vous rappelle que la liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. C'est ce qu'il dit Montesquieu au chapitre 2 du livre 12. Or, lorsque les lois pénales, les lois criminelles, comme dit Montesquieu, descendent du caprice du législateur, eh bien, la sûreté des citoyens est menacée. Elle est menacée car à ce moment-là, les citoyens peuvent être accusés de toutes sortes de crimes et punis selon toutes sortes de peines qui sont sans proportion avec eux. Vous voyez ? C'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir éviter l'abus de pouvoir. Il faut aussi s'assurer que les lois pénales soient des lois qui ne soient pas arbitraires, qui soient justes, qui établissent une proportion, une juste proportion entre les peines et les crimes. Vous voyez, par exemple. C'est très important. Donc, c'est un chapitre important. Et donc, et comme l'explique Montesquieu, là, vous avez le texte, page 2, le chapitre 12, toujours, donc le chapitre 2, excusez-moi, le chapitre 2 du livre 12, ligne 6, deuxième paragraphe. Cette sûreté, dit Montesquieu, cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen. Et précisément, la liberté du citoyen est attaquée quand le présumé coupable, celui qui est accusé d'un crime, n'est pas considéré comme un citoyen dont il faut protéger les droits avant d'établir sa culpabilité, avant de prononcer une peine. Ainsi, si on veut éviter le châtiment d'un innocent, il faut d'abord une procédure d'instruction rigoureuse. Lisez avec moi, ligne 24-28. L'avant-dernier paragraphe. Les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquérera dans d'autres sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde. Contre toute forme de justice expéditive, contre toute forme de justice qui soit soumise à la pression d'une opinion vengeresse. Vous savez bien, quand il y a eu un crime, immédiatisé, l'opinion est en ébullition, elle demande tout de suite une sanction, une punition. Bon, c'est ce qu'il faut éviter. Contre cela, il faut une enquête sérieuse, soucieuse d'établir la vérité des faits. Une enquête qui prémunisse ainsi contre toute erreur judiciaire. Et la phrase est importante, regardez bien la ligne 22, ligne 22-23, retenez-la bien cette phrase. Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Vous voyez ? Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Et pour établir sa démonstration, Montesquieu va jusqu'à soutenir qu'un homme qui, dans un état de droit, dans un gouvernement modéré, est jugé coupable après une enquête rigoureuse et se trouve condamné à être pendu, eh bien un tel homme, je cite, on va revoir ça, serait plus libre qu'un bacha ne l'est en Turquie. Je vais expliquer. Alors évidemment, d'abord, première chose, la peine de mort n'est pas remise en question au XVIIIe siècle. Bon. Il n'y a pas de débat là-dessus, si vous voulez. Mais on aura l'occasion de reprendre cette question. Et qu'est-ce que veut dire Montesquieu ? Lisons entièrement le passage. C'est la fin. C'est la fin du paragraphe. C'est la fin du chapitre. Regardez bien. Ligne 30. Et dans un État qui aurait là-dessus les meilleures lois possibles, un homme à qui on ferait son procès et qui devrait être pendu le lendemain serait plus libre qu'un bacha ne l'est en Turquie. Voilà. D'abord, je rappelle que la Turquie de l'époque, c'est un État despotique. Bon, ça, il faut le rappeler. Un bacha, qu'est-ce que c'est qu'un bacha ? C'est un juge de cet État qui est entièrement aux ordres du despote, qui prononce des peines arbitraires, sans aucune enquête, en frappant indistinctement les vrais criminels et les innocents. C'est ça. Bon. Alors, on pourrait penser que, contrairement à ce qu'affirme Montesquieu, il vaudrait mieux se trouver à la place du bacha et rester en vie, plutôt que de se trouver à celle de l'accusé qui est jugé et reconnu coupable d'un crime dans un état de droit, dans un gouvernement modéré, et qui sait qu'il sera pendu le lendemain. Franchement, on trouve que, on peut penser que, bon, il y va fort tout de même, c'est un peu paradoxal, son propos. Eh bien, si on réfléchit mieux, vous verrez que le paradoxe énoncé par Montesquieu et Levé, si on sait que le despote peut punir de mort un homme sous n'importe quel prétexte, y compris et même surtout ceux qui sont ses ministres et ses juges, notamment les bachas. Souvenez-vous de ce que disait le livre 5 sur l'état despotique. Le despote, finalement, il s'acharne surtout sur les premières places, sur ceux qui occupent les premières places. Ce sont les premiers à tomber. Ce sont les premiers qui sont exécutés. Vous voyez ? Donc le Bacha, il ne va pas rester longtemps en vie. Hein. Bon. Alors, en fin de compte, le problème est le suivant. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Un État despotique, ou celui qui juge et applique aveuglément des peines comme le Bacha, peut être lui-même exposé à périr à tout moment, ou un État de droit dans lequel la liberté des citoyens est protégée, y compris quand ils deviennent assassins. Alors, dans un gouvernement modéré, voyez, le criminel est d'abord considéré comme un citoyen dont il faut protéger les droits, jusqu'au moment où cette protection cesse, une fois sa culpabilité établie et la peine prononcée. Il vaut mieux vivre dans un état de droit. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il pousse à l'extrême l'exemple, vous voyez, pour nous forcer à réfléchir. Hein. Et je pense que c'est ici surtout que l'analyse de Montesquieu est la plus novatrice et la plus percutante. Et je vais terminer cette séance par une réflexion sur le droit contemporain, au regard de ce que dit Montesquieu. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle que soit la gravité de son crime, le criminel ne peut être d'emblée déchu de sa citoyenneté et désigné et traité comme un ennemi qu'il faut neutraliser. Ça, c'est pas du tout, évidemment, ce que dit Montesquieu. Montesquieu dit qu'il faut d'abord respecter les droits du citoyen avant de dire s'il est criminel et le punir. Donc, le criminel, il doit être puni, il ne doit être puni, s'il est criminel, qu'après avoir été jugé et déclaré coupable, et seulement pour le crime qu'il a effectivement commis. Voilà le principe. Alors, je sais bien que face à des crimes odieux, des crimes d'enfants, on sait que la tentation est grande d'envisager les peines comme des actes de guerre par lesquels on croit ainsi défendre la société. Il y a des crimes parfaitement crapuleux, horribles, épouvantables. Si vous faites une enquête, tout le monde dira « Juste une exception pour lui, mais il faut le tuer. Oui, pas le laisser en vie. » On réagit comme ça. Seulement, ce que dit Montesquieu, c'est clair, hein, c'est rigoureux. La protection légale des citoyens n'admet aucune exception. Et si on admet une exception, ben on prend le risque de donner à ce moment-là toute latitude à un pouvoir répressif qui, au nom de la sécurité collective, pourra bel et bien détruire la sûreté des citoyens. Ça commence par une exception, puis après ça peut s'étendre, hein, la porte est ouverte. Et c'est ce danger qu'ont pu souligner un certain nombre de juristes ces dernières années en observant l'inquiétante dérive sécuritaire des États occidentaux depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York. Et je pense surtout à l'ouvrage d'une juriste qui est morte l'année dernière, qui s'appelait Mireille Delmas-Marty, qui avait écrit en 2010 un livre qui a pour titre « Liberté et sécurité dans un monde dangereux ».« Liberté et sécurité dans un monde dangereux ». Alors, rappelons-nous que c'est au nom de la lutte contre le terrorisme que le gouvernement américain avait fait promulguer le Patriot Act. Vous vous souvenez de ça? Il avait instauré des zones d'exception juridique en matière de détention et de statut des prisonniers comme Guantanamo. Rien de plus étranger à l'idée de sûreté, qui est chère à Montesquieu, que cette logique sécuritaire, qui, loin de modérer l'exercice de l'État, l'autorise au contraire à s'affranchir de toute limite et à concentrer tous les pouvoirs. Ces gens qu'on arrête, ils ne sont pas jugés. Ils sont arrêtés administrativement. voyez, on a affaire à une détention administrative. Il n'y a pas de jugement. Bon. Alors, à partir du moment où on entre là-dedans, ça peut s'étendre. Hein. Et voyez que cette idéologie sécuritaire, comme on dit, elle conduit non seulement à restreindre la liberté des citoyens, mais encore à appliquer des peines préventives contre les individus qu'on juge suspects ou dangereux. Et là encore, rien n'est plus étranger à l'idée de sûreté que ce que l'on appelle aujourd'hui des mesures de sûreté ou la rétention de sûreté. Le même mot est utilisé, mais ce n'est pas le même sens du tout. Mesure de sûreté, rétention de sûreté, qui consiste à interner, par exemple, préventivement, un suspect ou à maintenir un condamné en détention au motif de sa dangerosité, après qu'il a pourtant déjà exécuté sa peine. Ah, et on ne va pas le laisser en liberté, parce qu'il est dangereux. Alors, vous voyez qu'il ne s'agit plus, dans ces conditions-là, de punir un individu seulement pour le crime qu'il a commis. Il s'agit surtout d'éviter qu'il ne commette le crime qu'on pense qu'il pourrait commettre. Et on est dans une autre logique, qui n'est plus celle de la punition, finalement. Et vous voyez que le droit pénal tend à faire prévaloir de plus en plus la notion de dangerosité au détriment de celle de culpabilité. Et on fait de moins en moins appel à un juge. Le juge, finalement, il a un rôle effacé, hein, de plus en plus, puisque ce sont plutôt les experts, les psychiatres, enfin d'autres individus qui vont se charger d'établir un diagnostic pour évaluer la dangerosité d'un individu. Et on va interner un homme parce qu'on voit en lui un criminel potentiel. Alors, vous voyez, je ne prétendrai pas ce soir avoir réglé le problème, mais vous voyez, je souligne le problème en tout cas. Vous voyez que vous avez ici affaire à une logique sécuritaire qui est destinée à nous protéger contre les ennemis, contre les individus dangereux, mais qui peut-être un jour s'abattre contre nous et nous désigner comme nous-mêmes des individus dangereux. Oui, vous comprenez le problème. Où s'arrête la limite? Donc, cette logique sécuritaire est une menace pour la sûreté des citoyens. Parce que si on admet, en effet, qu'un homme puisse être privé de ses droits de citoyen, et interné sans être jugé coupable d'un délit ou d'un crime, au regard de la loi, à ce moment-là, tous les citoyens sont exposés à être menacés à leur tour. Qui décide? C'est pas un juge. C'est un pouvoir d'État. C'est un préfet. Sur ordre d'un ministre de l'Intérieur. Bon. Et il a ses raisons, qui ne sont pas toujours explicites. Vous voyez, c'est pas clair. Donc, voilà le problème qui se pose. Alors, ces remarques, et j'arrête là-dessus, elles n'épuisent pas, j'en suis conscient, le sujet. Elles visent surtout à montrer l'intérêt de la lecture d'Esprit des lois pour nous aujourd'hui. Alors, la fois prochaine, nous poursuivrons notre lecture du livre 12, hein, et nous approfondirons donc notre réflexion sur le droit pénal, notamment en examinant comment Montesquieu aborde par exemple les crimes contre la religion, qui sont considérés à son époque comme les crimes les plus graves. Le crime de sacrilège, le crime de blasphème. Alors, bon, évidemment, pour nous, pour un État laïque, il n'y a pas de blasphème, ça n'existe pas. Mais à l'époque, c'est un crime qui est considéré comme un des crimes les plus graves. On vous condamne au bûcher pour ça. Eh bien, là encore, Montesquieu va jouer un rôle considérable, vous voyez, dans la réflexion sur cette question. Il va contribuer beaucoup, effectivement, à laïciser, si vous voulez, la question. Montrer que, finalement, ça ne regardait pas l'État. Vous voyez ? Bon, mais j'en resterai là pour ce soir. Merci de votre écoute. À vos questions.
Je pensais très fort à Kafka, le procès. C'est le contre-exemple même de ce que nous dit Montesquieu, c'est-à-dire, ça commence à peu près comme ça, on avait dû calomnier K, car un matin, on vient d'arrêter chez sa logeuse. Donc K ne sait pas de quoi il est accusé, quelle est la loi qu'il aurait transgressée, et si même il y aurait une loi qu'il aurait transgressée. En fait, il n'a pas besoin d'avoir transgressé quelque loi que ce soit pour être déclaré coupable. Donc dans l'opacité la plus totale, et il ne sait pas contre qui se battre, puisqu'il n'y a pas d'adversaire, d'instance à laquelle s'opposer.
Alors qu'une loi, une véritable loi, doit être publique, elle doit être connue. Hein, une loi ne peut pas être secrète, ou elle n'est pas une loi, ou elle est uniquement de l'ordre de l'arbitraire.
Et ça rejoint un peu ce que je disais l'autre fois à propos de 1984 de Orwell. Big Brother n'a pas besoin d'exister.
Oui.
Il suffit de l'idée.
De l'intérioriser.
Il suffit de l'intérioriser. Il suffit de se sentir observé. C'est un petit peu ce qui se passe en Chine toujours. On est sous le regard.
Vous mettez des drones partout, de la reconnaissance faciale partout. Un bon citoyen, par exemple, en Chine, il a une note. Hein. Il est noté, hein. Il est suivi. Hein. Et il ne peut plus s'acheter un certain nombre de choses s'il n'a pas la note suffisante. Il ne peut pas voyager, hein, attention. Hein. C'est-à-dire qu'il est sans cesse sous le regard, effectivement, il est sans cesse sous un contrôle social.
Et c'est une longue tradition en Chine, puisque donc on n'avait pas le droit de soutenir le regard de l'empereur.
Oui. S'il vous plaît.
On est déjà du temps de Montesquieu.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous parler de la Chine à l'époque, mais peut-être, oui. Une autre question notre... Oui, elle.
Oui, à l'exposé, qui est quand même assez limpide, on cherche en quoi, trois siècles après, les républiques d'aujourd'hui se sont écartées des principes fixés par Montesquieu. Ça paraît assez limpide. Enfin, je vous ai expliqué la nécessité que le législatif et l'exécutif se tiennent par la barbichette, que le législatif se doit d'être indépendant. On a l'impression que nos républiques d'aujourd'hui sont construites pile poil là-dessus. Quoi. Donc, en quoi aujourd'hui on se serait écarté des principes fixés par Montesquieu.
Bon, alors ce que je veux dire, c'est que pour Montesquieu, tout ça est toujours fragile. Maintenant, si vous voulez, il y a des
circonstances. Oui.
Moi, simplement, je voudrais dire que ce qui se passe depuis une trentaine d'années, tout de même, c'est la fréquence de ce qu'on appelle l'état d'urgence, la mise en place d'état d'urgence, qui autorise des mesures d'exception. Alors, les mesures d'exception, on va dire, bah oui, mais c'est une situation grave à laquelle il faut faire face, qui sera temporaire. Sauf que ces mesures d'exception, ensuite, elles sont pérennisées dans le droit commun. Je prends un exemple, là, il faudrait juger sur pièce, mais, par exemple, les premières lois sur le terrorisme autorisent des perquisitions administratives au domicile. Si on estime que votre comportement est suspect. Bon. se trouve que la première application qu'on ait faite de cette loi contre le terrorisme, elle a été faite non pas contre des terroristes, mais contre des gens, des militants écologistes, qu'on a, comment dirais-je, contraints de rester chez eux. Enfin, qu'on appelle ça assignation à résidence. Ou qui ont été en garde à vue pendant plusieurs heures. Et bon, c'est eux-mêmes. Vous voyez, le problème, c'est que c'est une loi qui était initialement destinée à lutter contre le terrorisme, subitement, elle se met à être étendue à d'autres choses. Vous voyez, c'est ça le problème. Bon, je prends d'autres exemples. Je sais pas, on peut limiter toutes sortes de libertés publiques au nom du terrorisme, au nom je ne sais quoi. Enfin, vous voyez. Et donc. De moins en moins, par exemple, il y a des tas de mesures qui sont d'exception, qui sont administrées, qui ne dépendent plus du juge. Le juge n'a plus son mot à dire. Il suffit que le préfet décide de mener une perquisition chez vous parce que vous êtes suspect, et puis c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Vous voyez, la justice n'a plus son mot à dire. C'est-à-dire, c'est cette extension du pouvoir administratif qui peut. Effectivement, largement posé problème. Alors, encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au début, ça peut être compris comme quelque chose de tout à fait légitime parce qu'on est une situation d'urgence. Le problème, c'est que après, l'urgence, même quand elle a disparu, les mesures, elles, ne disparaissent pas. Elles sont pérennisées. Elles sont pérennisées. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, vous entendez souvent des hommes politiques variés, divers et variés, dire que la première des libertés, c'est la sécurité. Mais c'est un contresens. Parce qu'ils confondent la sécurité au sens où ils l'entendent, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire un État sécuritaire, un État fort, qui réprime, qui n'hésite pas à limiter d'autres libertés pour préserver la sécurité. Au nom de la sécurité, on va restreindre des libertés. Vous voyez ? C'est pas du tout le sens du mot sûreté. La sûreté, c'est bien sûr, c'est il faut que je sois protégé contre l'arbitraire des autres citoyens s'ils veulent vraiment m'agresser, mais il faut aussi que je sois protégé contre l'État. L'État de droit, c'est pas l'État au-dessus du droit, c'est l'État soumis au droit. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est que à partir du moment où la fonction judiciaire est contournée, où un certain nombre de décisions qui consistent à arrêter des personnes ne dépendent plus du juge, de la justice, et si la justice en plus n'est pas indépendante, bah, y a une sorte d'extension du pouvoir exécutif, une concentration des pouvoirs, qui est considérable. En plus, les constitutions peuvent être telles que le pouvoir exécutif est de plus en plus renforcé, enfin, de plus en plus de pouvoir au détriment du législatif. Bon, on peut aussi entrer là-dedans. Hein.
Oui. Non, mais je crois qu'il y a un problème de langage, en fait. Lorsqu'on dit, par exemple, on parle de l'état d'urgence qui nécessite, oui. Ça ne veut pas dire forcément que l'urgence va cesser dans un temps déterminé. Ça peut être simplement le reflet, en fait, de l'incapacité d'un État à maîtriser une situation. Et voilà, donc ça, en fait, c'est, la notion d'urgence ne fait que montrer l'incapacité
oui.
À régler un problème.
Oui, oui, mais bon, je prends mon exemple. État d'urgence parce qu'il y a du terrorisme. Bon, je conçois. Mais le problème, c'est que quand les mesures qui sont censées être applicables à ceux qui sont dangereux, qui pourraient effectivement être terroristes, sont appliquées à d'autres...
Oui, mais c'est parce que justement, la notion d'état d'urgence n'est qu'un prétexte, en fait.
Voilà, c'est un prétexte. Absolument, c'est un prétexte. Alors, on est d'accord. Ça devient un prétexte.
On n'est pas réglé un problème, on parle d'une urgence, et ça fait passer un peu la chose plus facilement.
Oui, voilà, ça peut être... Effectivement, tout à fait. On se sert d'une situation d'urgence pour imposer des mesures qui sont des liberticides. Tout à fait, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, tout à fait. On prend prétexte d'une situation pour imposer ce qu'on ne pourrait pas sinon imposer. Voilà, ça, on est d'accord. Tout à fait. Et c'est une dérive à laquelle on risque d'assister.
Là, le pouvoir judiciaire, qui normalement est autonome, le dernier mot appartient au juge, finalement. Il y a la loi et l'interprétation de la loi.
Pas dans le cas où il y a état d'urgence et mesures d'exception, parce que finalement, il n'a pas son mot à dire. C'est le préfet qui décide. Si le préfet estime que vous êtes dangereux, vous êtes suspect, vous aurez le matin, à 5 heures du matin, une escouade de police frapper à votre porte, vous verrez, et puis vous serez, on vous demandera de... Ils vous demanderont de les suivre et vous serez en garde à vue.
Après, il y aura un procès et là, on passe devant le juge.
S'il y a un procès. Hein. Non, le problème, c'est que, voilà, c'est ça. C'est que. Voilà, tout à fait. On est dans des mesures d'ordre administratif. Vous pouvez arrêter l'état de gens sans qu'il n'y ait jamais de jugement. Oui?
Vous avez dit qu'à un moment donné, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir.
Ouais.
Mais est-ce que, compte tenu de tout ce qu'il a dit maintenant, il est encore possible que le pouvoir arrête le pouvoir?
Ah, ça c'est une question difficile. C'est vrai que quand la pente, quand la dérive a commencé, elle a tendance à s'aggraver. Et comment aller dans le sens inverse? Là, Montesquieu ne dit rien là-dessus. Il dit qu'il peut y avoir une chute dramatique, irrémédiable, qui fait que on restera en bas.
Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même que la Constitution était un rempart. À un moment donné, ce rempart est effrité aussi.
Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que là, disons que il fait pas appel, Montesquieu n'envisage pas une solution qui consisterait pour la population à se rebeller et à réinstaurer finalement l'état de droit. Ça, non, il n'envisage pas ça. Ça, c'est pas une. Vous voyez, n'envisage pas une mobilisation politique des citoyens pour exiger effectivement le respect des libertés. Non. C'est la clarification d'un fonctionnement. Voilà les conditions sous lesquelles, effectivement, la liberté politique peut être garantie. Mais voilà. Mais c'est vrai que chez lui, il raisonne toujours par rapport au pire. Hein, c'est toujours, il pense, c'est pas le penseur du meilleur régime possible, dans l'absolu, puisqu'il n'y a pas de meilleur régime possible. Hein. C'est selon la disposition particulière d'un peuple qu'il faut envisager la question du meilleur régime. Bon, ça c'est une chose. Mais le problème essentiel plutôt qu'il pose, c'est le problème du pire finalement. Comment éviter le pire? Comment éviter effectivement qu'un gouvernement modéré chute dans un gouvernement despotique.
C'est-à-dire que cette belle mécanique est une petite chose fragile.
Toujours.
Et ce qui contribue à cette fragilité, c'est qu'on n'est pas isolé dans le monde, mais que donc on n'est pas imperméable et que non. D'autres régimes tyranniques.
Alors, ce qui peut. Pour Montesquieu, ce qui peut entraîner, enfin à son époque, en tout cas pour lui, une dérive despotique du pouvoir, c'est la conquête d'autres territoires. Finalement, la colonisation est une très mauvaise chose qui peut entraîner un État modérée dans une spirale despotique. Ça, il le dit. Il le montre. Et donc, oui, ça, c'est un fait.
Oui. Que doit-on passer, par exemple, dans certains États, des juges qui sont élus démocratiquement par rapport à cette indépendance de la justice?
Ah, comment dire? Mais il faut dire ici une chose, je ne l'ai pas dit parce que je ne pouvais pas parler entièrement du chapitre 6, mais que les juges, ceux qui exercent la fonction judiciaire pour Montesquieu, ça doit être des jurys populaires, qui ne sont pas des professionnels qui détiennent une fonction à vie. Ce ne sont pas des magistrats pour lui, ce sont des jurys populaires qui jugent. Donc, ils ne sont pas élus, mais, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais il est tout à fait partisan de jurys populaires. Il veut éviter que les juges deviennent un corps de fonctionnaires, en quelque sorte, qui risquerait, s'ils devenaient des juges de métier, eh bien, qui risquerait effectivement d'exercer un pouvoir arbitraire. Donc il préfère effectivement que ce soit des jurys populaires qui se prononcent en matière de justice. Et alors, ça va même plus loin, c'est que comme il veut éviter que les hommes soient jugés en fonction des préjugés des uns ou des autres, eh bien, il est pour que les lords, la Chambre des lords, jugent les seigneurs, jugent les nobles mêmes, pour éviter qu'ils soient exposés à la vindicte populaire. Voilà. Il faut que ce soit les nobles mêmes qui jugent d'autres nobles, en quelque sorte, pour éviter que des jugements se fassent en fonction des passions. Hein, voilà, c'est une idée. Donc, effectivement, oui.
L'idée de
jury populaire.
Le juge populaire, ouais. Élu de. C'est quand même ça, c'est
ouais.
L'influence de la notion de la passion.
Non, parce qu'ils ne jugent pas, ils ne font pas la loi, ils appliquent la loi. Ils appliquent la loi. Mais non, ça c'est important, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'il y a. Il faut effectivement concevoir une loi pénale rigoureuse qui administre les peines en fonction d'un certain nombre de critères précis. Hein, que ce soit pas n'importe quoi. Qu'on ne juge pas les hommes en fonction des passions du moment. Ça, c'est un point très important pour Montesquieu. Mais évidemment, ça va dépendre aussi des régimes. Hein. La question de la justice, elle est différente selon les régimes. Hein. Mais voilà. En tout cas... Vous voyez bien que nous, en France encore, mais de moins en moins, il y a des jurys populaires dans les cours d'assises. Mais ça tend à disparaître. Puisqu'on professionnalise de plus en plus les choses, comme ça coûte cher, comme ça demande du temps, de plus en plus, on se débrouille pour que finalement ces jurys populaires disparaissent. Il y en a de moins en moins, hein. Et c'est un problème.
Selon quels critères il y en a de moins en moins ?
Pour des raisons de rationalité économique. Parce qu'effectivement, ça demande... Bah, il faut...
on n'a pas un jury populaire, qu'est-ce qu'on a à la place ?
Des professionnels.
Mais non, mais non. Il y a des règles.
Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais des règles, mais les choses ne se font pas dans la plus grande transparence. Il n'y a pas de débat contradictoire, par exemple. C'est là le problème, c'est que normalement, dans un procès, il faut un procès... avec un débat contradictoire, avec la défense et l'accusation. Tandis que là, à partir du moment où la question est réglée quasiment en amont par des professionnels qui, compulsent leur dossier, ont déjà plus ou moins préétabli leur peine, le débat contradictoire, il disparaît. Hein. Et puis, en plus, on automatise les peines. Effectivement, il y a des peines planchées. Vous voyez, en fait, c'est bientôt l'intelligence artificielle qui va fixer la peine qui va vous être appliquée. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il y a un, franchement un problème de coût. On se dit c'est trop cher, il n'y a pas assez de juges. Mais c'est vrai en plus. Ouais. Donc, c'est la fuite en avant dans une forme de technocratisation finalement du problème de la justice, où effectivement, de plus en plus, bah, les questions sont réglées de cette façon, d'un point de vue purement technicien.
Et ce qu'on appelle la jurisprudence, alors, c'est-à-dire une sorte d'habitude de pli qu'on a pris.
Alors, la jurisprudence, c'est-à-dire qu'en fait, un cas fait jurisprudence quand c'était un cas nouveau, qui n'avait jamais été jusqu'alors rencontré. C'est-à-dire, en fait, la jurisprudence consiste à réinterpréter la loi, en fonction d'une situation nouvelle. On essaie de se mettre dans l'esprit du législateur.
Au mieux.
Oui ?
Au mieux,
bien sûr. Voilà.
Souvent, on a l'impression que c'est parce qu'on a pris ce pli,
Oui, après, ça peut devenir une sorte de paresse. Après, ça peut devenir effectivement une sorte de... Mais c'est vrai que la jurisprudence, d'une certaine façon, oriente, pré-oriente les jugements. On les consulte, on consulte, effectivement. Mais il peut y avoir des changements. Ça peut bouger. Voilà. À condition, effectivement, qu'il y ait vraiment une justice vivante. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment des tribunaux avec des débats contradictoires, avec... Bon, mais... Et c'est vrai que ça demande du personnel. Quand vous êtes... quand vous êtes juré, vous êtes tiré au sort. Hein. Tiré au sort. Oui, oui, mais c'est eux qui jugent. Alors maintenant, ils sont encadrés par des magistrats. C'est vrai. Mais normalement, c'est eux qui décident. C'est eux. Et vous voyez qu'ils sont tirés au sort. Procédure démocratique, par excellence. Alors évidemment, ils sont tirés au sort, mais après on en élimine un certain nombre. C'est-à-dire on peut récuser un certain nombre de jurés. Les accusés peuvent récuser certains jurés. Oui ?
Pourquoi est-ce que fait confiance au
peuple ? Ah, attendez. Allez-y. Non, c'est parce que... Pour vous écouter... Alors, pour une raison très simple, c'est que la loi, c'est pas le peuple qui l'a fait. La loi n'est pas... attention, le juge n'est pas législateur. Hein. Le juge, il applique. C'est-à-dire, plus la loi est claire, et moins il y a de marge d'interprétation. Et moins de jurisprudence. Là, il est pour une justice quasi mathématique. Hein. Vous voyez ? Donc, d'une certaine manière... Le peuple n'a pas, enfin les jurés n'ont pas à, je dirais, imposer une interprétation selon les passions du moment. Il faut appliquer la loi.
Ça limite le recours au peuple, je veux dire, le juge peut le
rentrer. Oui, mais il est partie prenante tout de même du jugement, il est consulté, quand même, c'est important. Tandis que lorsqu'il s'agit par contre de légiférer, là c'est autre chose. C'est vrai que là, effectivement, chez Montesquieu, il y a une méfiance à l'égard de la démocratie directe, c'est clair. Il est pour, finalement, il est pour que ce soit les notables hein, qui légifèrent. Hein. Bon, ça c'est clair, mais au fond, tout le siècle est dans cette idée-là. Hein. C'est-à-dire que vous preniez la BCIS, enfin tous les grands hommes de la Révolution française, au départ, en tout cas, dans un premier temps, sont dans cet esprit-là. Voilà ce qu'on peut dire. D'autres questions ? Puis ce sera la dernière. On peut rester... D'accord. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Voilà.